Je crois que c'était tout autour du 31 août ou quelque chose comme ça que j'ai vu sur la télévision suisse, les informations à 10h du soir. Un reportage sur la plus grande base américaine, plus grande base militaire américaine en Europe. Elle s'appelle Bond Steel, pour donner donc honneur à un vétéran de la guerre de Vietnam. Et c'était
Assez
un.
douteux. Un vétéran assez douteux.
Qu'est-ce qu'il a fait?
Ben, il y a des rumeurs qui courent que c'était pas vraiment un héros de guerre. Il était décoré, disons comme ça.
Et donc, cette très grande base militaire qui se trouve au Kosovo et qu'elle a été mise en place tout de suite lors de la guerre de l'OTAN contre le Kosovo il y a 2 ans. Voilà, et puis à la fin de ce reportage, qui était vraiment très instructif parce qu'il a fait le lien aussi avec la mer Caspienne, les richesses pétrolières, le présentateur à la télévision, Stefan Klaproth, il a dit, voilà, avec ce reportage, c'est Andrea Müller qui va nous dire au revoir. Et je me suis dit, mais bon, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on informe là-dessus? Et puis, le journaliste, il arrête. Entre-temps, j'ai eu l'occasion de parler à plusieurs personnes, à beaucoup de personnes même, pour demander s'ils savaient ce que c'était Bond Steel. J'ai constaté que l'information, elle ne circule pas tout autour de ça. Et puisqu'on a maintenant le plaisir de parler avec Andrea Müller, qui était à l'origine de ce documentaire, de ce film, 5-6 minutes, quelque chose comme ça, ça serait certainement très intéressant de donner d'abord les faits, un peu qu'est-ce que c'est Bond Steel, pourquoi c'était installé à cet endroit-là, donc au Kosovo. Et puis, peut-être dans un deuxième temps, voir un peu quelles étaient les difficultés de tournage et un peu montrer tout ça aussi dans un contexte européen et peut-être aussi géostratégique, on verra. Alors donc, Andrea Müller, comment ça s'est mis en route de faire un documentaire sur Bond Steel?
On s'est posé des questions depuis très longtemps sur Bond Steel. Dès le début, à la fin du bombardement, les Américains, ils étaient capables de commencer la construction de Bond Steel exactement 5 jours après qu'ils étaient arrivés avec l'OTAN au Kosovo. C'était quand même frappant. On sait que l'endroit, il était choisi stratégiquement à la perfection parce que c'est l'endroit. Peut-être le seul endroit au Kosovo où il n'y a presque pas de brouillard. On dit par an, il y a une demi-heure de brouillard. Et on sait bien que, par exemple, l'aéroport de Slatina, de Pristina, il est la moitié de l'année, il est inutilisable à cause du brouillard. Alors on s'est toujours posé des questions. Comment c'était possible qu'ils commencent aussi vite à un tel endroit stratégique de construire la plus grande base militaire que les Américains on construit en dehors des États-Unis depuis Vietnam. Et on n'a jamais trouvé de réponse. Mais depuis un an environ, ont commencé à circuler des spéculations. C'est pas beaucoup plus qu'on le lit aussi avec l'affaire de l'huile, avec la mer Caspienne, etc. On a insisté, insisté, insisté. Et un jour, j'ai décidé de publier un peu quelques indices. Il n'y a pas de preuves, mais si on met un peu un indice à côté de l'autre, ça donne comme une image qui nous permet de poser quelques questions. C'est ce qu'on a fait.
Peut-être encore pour situer la base militaire plus exactement, géographiquement, elle se trouve à combien de kilomètres de Pristina? Elle se trouve à combien de kilomètres aussi de cet aéroport qui a été, on se rappelle de cette action un peu commando, un peu bizarre des Russes à la fin de la guerre. Ils ont occupé rapidement l'aéroport de Slatina, donc près de Pristina. Ils ont occupé ça. Est-ce que c'était, bon, oui, où se trouve Bond Steel?
Il faut se rendre compte, le Kosovo, il est tout petit, hein. C'est une petite province. Et Pristina est à une 60aine de kilomètres de Bond Steel, ou vice-versa. Mais ce qui est beaucoup plus important, c'est l'endroit de Bond Steel dans le Balkan. Elle fortifie quasiment le sud du Balkan. Elle est à une 20aine de kilomètres de la frontière de la Macédoine. Elle est très très près, je ne sais pas le nombre de kilomètres, d'Istanbul, on appelle ça comment, l'Asie, le pont entre l'Asie et l'Europe.
C'est le Bosporus.
Le Bosporus. Et si on voit un peu comment ça s'est développé pendant les 10 années dernières, on a vu que les Américains, ensemble avec les Européens, ils ont construit quelque chose comme un corridor de l'Europe, de l'Italie, le long de l'Adriatique, en sud de la Yougoslavie, de la Serbie. Ça a commencé avec la Croatie, ça a continué en Bosnie. Et il y a beaucoup d'influence au Monténégro maintenant. L'Albanie, elle est un peu incorporée à cette onde de l'Ouest. Il y a la Macédoine, il y a le Kosovo, il y a tout un arc au sud de la Yougoslavie qui est européen, qui est américain maintenant. On voit, il y a des troupes américaines et européennes en Croatie. Il les a en Bosnie, la SFOR. Il les a maintenant au Kosovo. Et ils y sont aussi en Macédoine. On voit un peu, ça pourrait, ça a l'air que c'est assez stratégique, que c'était planifié. Et Bonstil, c'est la fortification de tout ça. Il y a des aéroports, il y a des bases militaires aussi en Bosnie, mais de loin de telle importance que Bonstil.
J'ai lu que Rumsfeld, le ministre de la Défense, il était sur place dans le courant du mois de juin de cette année. Et il avait préconisé à ce moment-là, il avait dit aux soldats, nous sommes fiers de vous, c'est ce qu'ils disent toujours quand ils vont visiter leur base militaire, mais soyez assurés que vous n'êtes pas une charge pour le budget de l'État, mais vous êtes un investissement dans le futur. Et puis, dans le document que vous avez fait, vous avez donc mentionné que Bonstil est sur le tracé d'une pipeline qui est prévue de Burgas, si je me trompe, à Avlona. Est-ce que c'est exact? Avlona en Albanie, Burgas en Bulgarie.
Ben alors, c'est lié avec l'atout majeur stratégique du monde, c'est l'huile. C'est lié avec l'huile au Caspian Sea. C'est quoi en français?
Mer Caspienne.
Mer Caspienne, dans la région de Bakou, Azerbaïdjan, etc. Là, on a trouvé d'immenses réserves de l'huile. Le problème est, pour le Ouest, comment le sortir, comment le transporter en direction des États-Unis et de l'Europe. Et déjà, quand on regarde sur la route, il y a la possibilité de le sortir, de le faire sortir en direction sud par la Turquie. Il y a un grand port turc sur la frontière avec la Syrie, c'est Ceyhan. Mais on a le problème que cette pipeline de Bakou à Ceyhan, elle va le long de la frontière iranienne, ce qui est quand même une force majeure dans le futur. Géostratégiquement, c'est assez dangereux. Et ça passe des régions qui sont pas très très stables. On voit qu'il y a aussi une voie à direction de l'ouest. On peut utiliser la Russie, mais on sait très bien que les Américains, ils sont toujours pas tellement amis avec les Russes. C'est-à-dire, on trouve un chemin entre les deux. C'est le sud qui traverse de Bakou, qui traverse une petite partie de la Russie au port de Novorossiysk, sur la mer Noire. Et de là, on peut le transporter facilement avec des supertankers à travers la mer Noire en Bulgarie, à Burgas. De là, en pipeline, via Skopje, jusqu'en Albanie. Et ce corridor, on l'appelle corridor, il est dénommé le corridor 8 aussi par l'Europe. C'est un corridor économique stratégique à développer. On y a investi déjà beaucoup d'argent, aussi les Européens, pour y avoir un corridor pour tout, des autoroutes, des câbles électroniques, du pétrole, etc., etc., tous.
Mais c'en est où avec ces projets? Parce que je crois, si mes informations sont précises et si j'ai bien compris le documentaire que vous avez fait, on peut dire que la route du Nord, donc de Bakou, via Komsomolsk, Novorossiysk, à la mer Noire, ce pipeline, il existe déjà?
Oui, il existe déjà.
Et je crois il a commencé à fonctionner depuis le 1er septembre, c'est ça?
Oui.
Et puis de là, donc la matière première, le pétrole, il est mis dans ces supertankers, mais pour le moment, il passe dans les Dardanelles, Bosporus, et il...
Oui, ça passe par là, mais là, les supertankers, ils passent pas. parce que c'est pas assez étroit, le Bosporus.
C'est
et puis c'est, oui, et c'est très très dangereux parce qu'il y a trop de trafic. Alors on peut pas risquer avec des 800 000 tonnes de passer le Bosporus. C'est trop dangereux. C'est pour ça qu'on fait aussi des réflexions de faire une route de Bourgas sud vers la Grèce. Mais c'est compliqué. Là, on doit sortir de l'Égéis. C'est beaucoup plus logique d'aller en Albanie, sud de l'Albanie, Flore, Valona, en italien, parce que c'est l'entrée de l'Adria. Là, on le sort très, très facilement. Et les Américains, ils ont fait des sondages, des recherches. C'est la Trade Development Agency. Les Américains, c'est une grande organisation de l'État. Ils ont fait une étude. C'est quoi en français? Feasibility study.
Oui, une étude de faisabilité.
Faisabilité, qui a donné des résultats excellents, que c'est le meilleur chemin, le moins cher, etc. Tout ça a été fait par les Américains.
Ça veut dire les plans, ils existent, mais la mise en place, la réalisation, non, pas
oui,
encore.
Oui, c'est très étonnant. Pourquoi ils ne l'ont pas encore construit? C'est vraiment une question que je me pose, parce que tous les ingrédients sont là, ils pourraient le faire. On dit, la Macédoine, le sud du Balkan n'est pas pacifié, mais ceux qui ont exploité l'huile, ils s'en foutaient toujours de la paix. Ils pouvaient fonctionner sans paix, parce que c'est eux la loi, c'est eux, ils fonctionnent sans rien.
Mais est-ce qu'on ne pouvait pas avoir à l'exemple de la Tchétchénie où il y avait ce pipeline qui passait via Grozny et que les partisans, l'opposition tchétchène a en permanence saboté même cette pipeline pour justement avoir un impact politique. Est-ce qu'on ne pourrait pas craindre la même chose dans une région déstabilisée quand on voit ce qui se passe en Macédoine, quand on voit ce qui se passe dans les régions qui sont contrôlées par l'UTCHK?
Oui, c'est correct. On peut se faire des soucis. Mais les Tchétchènes, ils n'ont pas bloqué la pipeline contre l'Ouest. C'était la pipeline des Russes qu'ils ont bloquée. Alors, peut-être on pourrait aussi se poser des questions. Qui finance les Tchétchènes depuis longtemps? Comment est-ce qu'ils peuvent survivre contre une telle force comme la Russie? Alors, c'est d'autres questions qui se posent. Mais si nous continuons avec la pipeline à Sud-Balkan, on voit un peu qui est derrière cette pipeline. Ça donne quand même ça nous fait quand même poser quelques questions. Ces plans, ils étaient faits par l'État américain. Mais les droits pour cette pipeline, de la construire, est tenu par une compagnie qui s'appelle AMBO. A-M-B-O. C'est Albanian, Macedonian, Bulgarian, Oil, quelque chose compagnie, hein. Mais elle est tenue par une boîte américaine. Cette boîte américaine, officiellement, le chef, c'est un ex-Macédoine. Deuxième génération d'un Macédoine de haut de gamme. Mais si on voit derrière, le CEO de cette compagnie, il s'appelle Monsieur Ted Ferguson.
Donc, CEO, c'est Chief Executive Officer, donc le président du conseil d'administration.
Oui, celui qui a le pouvoir. Il s'appelle Ted Ferguson. Il était un des directeurs d'une compagnie britannique qui s'appelle Brown & Roots, qui est en vérité une compagnie américaine, qui est la, c'est quoi, Tochtergesellschaft.
Une filiale.
Une filiale de Halliburton Company, qui est une des grandes boîtes dans le oil et arms c'est quoi?
Armement.
Du business huile et armement aux États-Unis. Et on voit quelques liens. Si on continue, Halliburton, le CEO, le chef exécutif avant, il s'appelle Monsieur Dick Cheney. Actuellement, il est vice-président des États-Unis. Il vient des cercles militaires, armement, comme Monsieur Rumsfeld, le secrétaire d'État de défense des États-Unis. Et si on voit que cette compagnie Brown & Roots, qui a délégué quasiment un de ses directeurs à cet AMBO, elle fait aussi, elle donne, elle finance, elle construit tout, tous les services, tout ce qui est autour de toutes les constructions de l'huile en Azerbaïdjan et en Caucasie. Si on voit aussi que cette Brown & Roots, c'est exactement la compagnie qui a construit Bondsteel, qui fait tout le ravitaillement pour l'OTAN, pour les Américains dans tous les Balkans. Ça fait quand même un joli puzzle qui alors, nous fait poser des questions.
Oui, alors, et puisqu'on a maintenant géré beaucoup de noms, est-ce qu'on peut encore une fois faire un petit récapitulatif, parce que ça me paraît très important de parler de temps en temps, justement quand on a la possibilité de parler avec un journaliste, très rarement, on dénonce les noms des sociétés qui sont donc en question et qui sont des acteurs dans ces contextes géostratégiques assez importants. Donc, commençons encore une fois, la société Ambo. Elle appartient donc au fait à Brown & Roots. Et Brown & Roots.
Mais ça, c'est pas prouvé. Hein? Ils ne tiennent pas des actions. C'est quoi, shareholder?
Oui, c'est des actions.
Ils ne tiennent pas vraiment des actions. Mais c'est un ex-directeur de Brown & Roots qui est le CEO actuellement de Ambo.
Voilà. Et puis, donc, et Brown & Roots,
c'est
ça,
une
c'est
filiale,
donc une filiale de
Halliburton.
Yeah. Et Halliburton est donc là-dedans, on retrouvait déjà des présidents de conseil d'administration qui s'appelaient Dick Cheney et autres, donc les actuels
responsables de la politique américaine. En même temps, elle supply company, services company des Américains et de l'OTAN dans tous les Balkans. C'est eux qui ont construit Bond Steel.
La construction de Bond Steel. J'ai entendu qu'ils avaient des salles de gymnastique assez extraordinaires, mais phénoménales, et puis que c'était une infrastructure, mais vraiment impressionnant.
Mais les Américains, ils sont fantastiques, hein, ils savent faire. Non, mais cette base, elle est tellement impressionnante. D'ailleurs, elle est immense. Puis il y a tout, il y a deux églises, il y a trois salles de gym immenses, il y a l'haltérophilie, il y a des Wimpy Burger, restaurant, mais il y a tout, c'est la petite Amérique.
On peut 900 hectares transformés en petite Amérique.
Exactement, c'est vraiment fascinant. Ils ont la belle vie, les Américains, là-dessus.
Et c'est donc environ 5000 soldats qui se trouvent là, avec leurs femmes, avec leurs membres de la famille, ou ils sont en déplacement sans...
Non, ils sont en militaire, là. Ils sont en militaire, comme ils sont aussi dans d'autres bases. Pour ça, c'est toujours une caserne. Hein. Ils vivent ensemble dans des chambres à quatre, je crois, actuellement. Mais c'est quand même... les Américains, ils savent comment gérer les soldats pour les tenir en bon état d'esprit.
Au Vietnam, ils avaient aussi un service après-vente qui était très garni avec des prostituées. C'est pareil là-bas?
Ça, je n'ai pas connaissance. Mais on sait qu'au Kosovo, si on cherche des femmes, on peut les trouver.
Situation de guerre où on peut s'imaginer. Donc, quelles étaient les difficultés ou comment ça s'est pu se réaliser, ces documentaires? Est-ce qu'il y avait des obstacles? Est-ce qu'il y avait des freins? Est-ce qu'il y avait des... Parce qu'on n'a pas souvent parlé de Bond Steel dans les médias.
Ben, au sein de la télévision 6, il n'y avait pas de restrictions. Il n'y a personne qui m'a bloqué ou qui m'a freiné. Pas du tout. Le problème, c'est les recherches, c'est assez difficile. Il y a des rumeurs. Il y a des publications dans l'Internet, il y a aussi des articles dans des journaux qui apparaissent. Mais de trouver des preuves, c'est très très difficile. Et comme journaliste sérieux, c'est difficile de publier que des rumeurs. Mais il y avait un moment que je me suis dit, il y a autant de rumeurs, il y a autant d'indices, c'est quand même... Le spectateur, il a quand même droit de se poser quelques questions. C'est rien de prouvé, mais ça paraît assez évident. Mais au sein de la télévision, Zehn vor Zehn, c'est l'émission où c'était publié, il a un chef qui est très open-minded, et il dit, vas-y, si tu peux faire quelque chose, t'y vas. Et ça n'a pas pris beaucoup de temps de réaliser le film, parce que les recherches, on les a faites depuis 2 ans. Alors, c'était là, c'était juste le problème de trouver des interlocuteurs qui sont prêts à parler. Et moi, j'ai pensé qu'il sera difficile de filmer à Bond Steel, ce qui n'était pas du tout un problème. Ils sont très ouverts, les Américains, ils nous accueillent, ils nous donnent des voitures pour nous déplacer, tout. Mais bien sûr, on n'a pas le droit de filmer tout. Ils nous disent, vous pouvez demander ce que vous voulez, on vous fait filmer ça. Et on a demandé, on a pu filmer des hélicos qui atterrissent, on a pu filmer des soldats qui se déplacent, on a pu filmer le Wimpy Bar, etc. Mais comme on ne sait pas ce qu'il y a vraiment sur Bond Steel, peut-être il y a des choses qu'on ne sait pas. On n'a pas demandé de trouver ces choses qu'on ne connaît pas. Alors peut-être ils cachent autre chose. Ça, je ne sais pas. Mais pour ça, il n'y avait pas de limite. On était libre à filmer. En Macédoine, c'était aussi frappant. c'était facile de trouver des interlocuteurs du côté macédoine qui sont très très conscients de tous ces rumeurs et tous ces indices, qui même, eux aussi, ils disent, oui, c'est tellement évident, c'est vrai même, ils disent. Même des hauts fonctionnaires du gouvernement, ils étaient prêts de parler. Moi, j'étais tout frappé. Mais il ne suffit pas de le publier. C'est publié dans différents médias, mais ça bouge quand même pas. On le pose, les gens ils sont frappés, ils le consomment, et puis la vie continue avec toutes les petites choses qui nous préoccupent chez nous.
Est-ce qu'on peut, bon, c'est difficile probablement pour vous de répondre, Andrea Müller, sur cette question. Est-ce que vous pensez que cette base Bondsteel, elle a une fonction stratégique très utile actuellement par rapport, puisque le film, il était tourné avant le 11 septembre, le documentaire, vous l'avez fait avant, vous avez arrêté maintenant votre travail de journaliste, vous avez travaillé pendant 20 ans comme journaliste. Est-ce que, Andrea Müller, ça peut être imaginable que cette base militaire, donc la plus grande en Europe, 5000 soldats, un terrain d'atterrissage pas encore comme il faut, est-ce que cette base, elle a déjà eu, ou elle doit avoir une fonction très importante par rapport à ce qui se passe maintenant en Afghanistan?
Je crois oui, mais indirectement. Je ne crois pas qu'il y a des soldats de Bondsteel qui vont être déployés en Afghanistan. Mais eux, ils sont là pour fortifier, aussi pour pouvoir intervenir en direction de la Caucasie, en direction du Bosporus, et aussi en direction sud, quand il y aura des problèmes Turquie, Grèce, etc. Mais indirectement, je dis, parce que l'Afghanistan, on doit être conscient que c'est pas uniquement une bataille, une guerre contre le terrorisme, ça a aussi à faire avec l'île, hein. Parce qu'une autre pipeline de l'Asie centrale, de la Caucasie, elle est planifiée direction sud, à travers exactement l'Afghanistan. On ne peut pas seulement se concentrer sur un seul endroit. Les Américains, ils pensent beaucoup plus stratégique. Alors, s'ils mettent la guerre en Afghanistan, ça a à faire avec d'autres endroits. Et Bondsteel, ça fortifie le sud du Balkan, l'entrée ouest quasiment aussi de la Caucasie, et l'Afghanistan joue à l'autre bout de cette région, Asie centrale, un rôle important. C'est voilà le scénario géostratégique où tout se mêle, où tous les indices se mêlent.
Et quel est le rôle de l'Europe ? Quel est le rôle, par exemple, aussi de l'Allemagne dans tout ça, mais surtout de l'Europe, je pense.
On spécule toujours.
Hein. On spécule, oui, on spécule, puisque c'est toujours très difficile d'entrer dans le sérail et dans le savoir des états-majors qui nous gouvernent.
On dit qu'au Balkan se manifeste visiblement l'antagonisme qui monte entre les États-Unis et l'Europe. On a dit que la Macédoine pouvait être un champ de bataille, hein, entre guillemets, entre l'Europe et les États-Unis. Il y a des commandants européens de l'OTAN qui accusent fortement les Américains d'avoir laissé faire les UCK, introduire, invader la Macédoine du Kosovo. C'est surtout les troupes américaines casernées à Bondsteel qui devraient garder la frontière entre le Kosovo et la Macédoine. Et on sait très bien qu'ils n'ont pas fait un super job là, les Américains. Les UCK, ils ont transporté leurs armes, leur personnel du Kosovo en Macédoine sous les yeux des Américains. Et ils ont mis le feu à la Macédonie. Et les Européens, ils accusent assez ouvertement les Américains d'avoir laissé faire les UCK, que les UCK ont fait le dirty work pour les Américains en Macédoine pour créer la crise, pour faciliter la fortification de la région pour les Américains à cause du corridor 8 et la pipeline.
Voilà, je ne sais pas si André Müller, vous voulez encore compléter ou si c'était le mot de la fin.
Non, je veux bien compléter. Mais C'est aussi intéressant de voir ce qui est publié, hein, ce que nous, journalistes, nous publions, parce que nous avons des sources. Ce n'est pas nous qui faisons seulement des recherches. On veut nous donner des informations. On peut se demander pourquoi. Et autour de la Macédoine, on pouvait observer que dans des journaux allemands, des journaux britanniques, même à la télévision suisse, étaient publiés des articles assez critiques vis-à-vis des Américains. Et on peut se demander pourquoi à ce moment-là c'était concerté, pourquoi il y avait ces publications. Peut-être il y a des gens en Europe qui sont intéressés de montrer que peut-être cette Europe qui marche avec les Américains aussi maintenant dans la lutte contre le terrorisme, peut-être elle veut faire une politique qui est assez controverse à celle des États-Unis. Et peut-être c'est quelque chose à voir, à observer dans le futur, l'antagonisme entre les États-Unis et l'Europe, et surtout la force majeure de l'Europe, c'est dur de le dire en France, c'est les Allemands. C'est eux qui font leur propre business dans les Balkans. C'est eux qui sont de nouveau de retour dans le jeu européen aussi du point de vue militaire. Ils prennent le rôle. Depuis 2-3 ans, les Allemands, ils sont de retour. On sait dans l'histoire, on l'a toujours observé comme dangereux. Mais peut-être, dans le sens de la globalisation, l'Europe a un certain intérêt que les Allemands, ils reprennent leur rôle dans le concert international pour limiter un peu l'influence américaine dans tout le monde, aussi dans le Balkan et dans l'Europe.
Et là, ils ont de toute façon actuellement un chancelier social-démocrate, le représentant de Volkswagen Schröder, et puis un ancien pacifiste, Joschka Fischer, qui fait la politique des affaires étrangères.
Oui, ça nous trouble. Je crois que tout le monde qui vient de ces cercles, ça nous trouble fortement. C'est eux qui refont la militarisation de l'Allemagne et le ressurgiment de l'ennemi de l'Europe du siècle dernier. Quand même, c'est les Allemands qui ont fait beaucoup, beaucoup de mal à l'Europe dans le XXe siècle. Et les pacifistes, nos vieux copains, c'est eux qui remettent en surface et en action les Allemands en tant que force militaire en Europe. C'est quand même frappant.
Merci, Andrea Mulan.